Merci encore à toute l'équipe de louange qui travaille si fort pour nous conduire dans ce moment de louange. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont ici fidèlement chaque semaine, bonjour à ceux qui nous visitent et bonjour à ceux qui nous écoutent par l'Internet. Eh bien, on est arrivé, c'est le jour J demain. Je ne sais pas si vous êtes allé voter, mais c'est vraiment demain qu'on va voir, qu'on va connaître notre prochain gouvernement. Et comme le disait hier dans le Journal de Montréal, Denise Bombardier, ce fut une interminable, mais étonnante campagne électorale. Et vous savez, c'est notre devoir, il est de notre devoir d'aller voter comme citoyen et aussi de prier pour le gouvernement. Il y a un passage justement dans le Nouveau Testament que vous connaissez peut-être, dans 1 Timothée qui dit ceci, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois. » Alors pour nous, dans notre structure, c'est pour le premier ministre et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Alors, on voit certainement ici que le choix des gouvernements a des incidences sur la tranquillité, on mène une vie paisible. Et tu écoutes tous les candidats et c'est bien clair que chacun veut essayer d'améliorer la société. Ça dépend évidemment, ce qui différencie d'un candidat à l'autre, c'est les priorités que chacun pense être le plus important finalement pour améliorer la société. C'est là que ça se joue. Mais tout le monde veut une société meilleure. Tu parles à des travailleurs sociaux, tu parles à des psychologues, tu parles aux gens qui travaillent dans le milieu médical, à l'entraide, tu parles aux policiers. Tout le monde veut une société meilleure. Mais la question, c'est comment transformer notre société pour qu'elle devienne meilleure? Et oui, certainement, le gouvernement a... C'est certainement un vecteur de changement, mais comment changer la société en profondeur? Comment changer la société pour que ça ait même un impact dans les relations de mariage et dans les relations avec parents et enfants, pour faire chuter la violence et changer le cœur des gens? Qu'est-ce que ça prend pour changer une société jusqu'en profondeur? Est-ce qu'il va avoir un impact même à la racine? Et si on veut voir notre société être transformée en profondeur, elle a besoin vraiment de se tourner vers Dieu. Dans 2 Chroniques 7, il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'est ce que notre société a besoin, c'est vraiment se tourner vers Dieu. Et si nous voulons voir notre société changer, ça commence avec nous. Dieu veut se servir de nous comme des instruments puissants pour avoir un impact sur la société, transformer la société. Et Dieu, dans l'histoire, s'est servi d'une seule personne pour transformer une grande métropole, une métropole très moderne, mais très violente. Une seule personne s'est appris pour changer une société complète. Dans le monde ancien, par exemple, il existait une grande métropole, la ville de Ninive. Et à l'époque, c'était la métropole la plus moderne, mais c'était aussi reconnu pour sa violence. Ils étaient reconnus pour leur puissance militaire. C'était une ville de débauche, une ville violente. D'ailleurs, les archéologues ont fait plusieurs recherches. Ils ont découvert un peu les restes de cette ville pour découvrir jusqu'où ils allaient dans leur violence. Ils étaient reconnus. D'ailleurs, les rois du pays se vantaient même de leur agressivité, de leur violence. On a découvert, par exemple, que les rois amassaient des pyramides de têtes de squelettes de prisonniers, des grosses montagnes là, de têtes de squelettes. Les rois se vantaient de leurs actes de violence. Un roi, d'ailleurs, écrit qu'il se vantait d'avoir coupé le nez de certains prisonniers, arrachait les yeux, coupait les doigts, les mains, les membres. Il démembrait les gens. On les accrochait sur des poteaux à l'entrée de la ville pour que tout le monde puisse les voir. On attachait un anneau dans le nez des prisonniers qu'on traînait d'un pays qu'on venait de conquérir. On les emmenait, on les traînait, on attachait une corde à l'anneau dans le nez. Ils marchaient à pied et la corde était attachée à un cheval. On brûlait vif des prisonniers. D'ailleurs, il y a même un roi qui s'est vanté de prendre la peau de certains prisonniers, arracher la peau et le coller sur les murs des bâtiments. Et il se vantait de cela, de faire comme de la tapisserie sur les murs de peau d'êtres humains. Maintenant, comment tu transformes une ville si violente et si méchante? Est-ce possible de transformer une société comme Nénive? La ville de Nénive a changé complètement du tout au tout parce qu'une personne est devenue un instrument puissant entre les mains de Dieu. Une seule personne a eu un impact dans toute la ville. Des milliers de personnes ont changé à travers le ministère, le service de ce bonhomme-là et ses Jonas. Et vous savez quoi? Dieu veut faire la même chose avec nous. Dieu veut transformer notre ville, veut transformer tout l'Outaouais et toute la région, veut transformer le Québec à travers nous. Tournons ensemble dans Jonas chapitre 3, où nous voyons cette histoire phénoménale où une société a complètement changé à travers Jonas. Une seule personne. Jonas chapitre 3, et nous allons commencer au verset 1. Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Nénive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Nénive sera détruite. Les habitants de Nénive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Nénive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Nénive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision? S'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il avait menacé. Il les avait menacés et ne le fit pas. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, tout d'abord, nous voulons te remercier pour tes grâces et pour tes bontés, pour ta miséricorde envers nous, pour cette grâce aussi que tu offres à notre pays, à notre ville, de vouloir se tourner vers toi. On te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses nous conduire dans ta parole, parler à nos cœurs, parce que nous voulons être des instruments entre tes mains pour avoir un impact dans cette ville. C'est ce que tu veux, Seigneur. Alors, parle à nos cœurs, révèle-toi à nous, au nom de Jésus. Amen. Dieu a changé cette grande métropole en se servant d'une seule personne, Jonas. Mais avant de changer la ville de Nénive, avant de pouvoir être un instrument puissant entre les mains de Dieu, Jonas lui-même a eu besoin de changer. On connaît l'histoire où Jonas, Dieu était venu voir Jonas et il l'avait appelé de quitter sa région où il habitait près de Nazareth et se diriger vers le nord-est, dans le coin de Nénive, pour aller proclamer la parole de Dieu. Mais Jonas a refusé. Et au lieu, Jonas s'est éloigné de Dieu. Il est parti prendre un bateau et se diriger dans une direction tout à fait à l'opposé, à l'ouest, très loin d'Israël et loin de l'endroit où Dieu l'appelait. Et là, Dieu a envoyé une tempête et le bateau a presque chaviré. Et là, il a été, Jonas, finalement, on a découvert que c'était lui. Jonas a dit, écoute, c'est de ma faute. Il s'est reconnu coupable. Il dit, c'est de ma faute. S'il y a une tempête, vous n'avez pas le choix. Vous devez me jeter en bas du bateau. Vous allez être sauvés. C'est la seule manière que vous allez pouvoir être sauvés et ne pas vous noyer. Et c'est ce que les gars ont fait. Ils l'ont envoyé par-dessus bord. Et là, il s'en allait se noyer. Jonas coulait. Et Dieu envoie un gros poisson, un grand poisson le prendre. Et il le prend. Il se retrouve dans le ventre de ce grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits, dans la noirceur, seul avec son Dieu. Et c'est là vraiment qu'il commence à, il confesse, il prie, il remercie Dieu, voyant la grâce que Dieu lui fait, alors qu'il aurait dû mourir, subir les conséquences de son péché, de sa rébellion, à désobéir cet appel. C'était un prophète, il aurait dû obéir, mais sa haine contre les Assyriens faisait qu'il ne voulait rien savoir, il était raciste, ne voulait absolument pas aller prêcher la parole de Dieu. Et là, Dieu a commencé à le rencontrer, là. Et il réalise que Dieu lui fait une grâce en le sauvant, en le réchappant au fond de l'eau. Et c'est là qu'il ouvre son cœur, fait une prière, confesse, loue Dieu pour sa grâce de le sauver. Et c'est à ce moment-là qu'il sort, qu'il est jeté. Dieu donne un ordre au poisson, il est jeté à terre, il sort, il est sauvé. Et là, Dieu va revenir le voir. Mais Dieu l'a préparé au fond de l'eau. Dans la tempête, Dieu est en train de le former pour qu'il devienne un outil puissant entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Dieu veut nous changer pour ensuite que nous puissions changer notre ville, avoir un impact dans notre ville. Ça commence avec nous. Dieu nous appelle à devenir des agents de changement, des transformateurs en métaphore, si on peut employer une métaphore. Comment devenir un instrument puissant qui va transformer notre ville? Eh bien, de la même manière que Jonas est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu, au point de transformer une société, la société la plus violente de l'époque du monde ancien. On devient un puissant instrument dans les mains de Dieu par la grâce persistante de Dieu. Jonas avait refusé de répondre à l'appel de Dieu. Mais là, Dieu va aller le chercher. Dieu va envoyer cette épreuve dans sa vie, cette tempête qui l'emmène presque au bord de la mort pour qu'il réalise qu'il a besoin de Dieu. Et là, Dieu va le sauver, va l'épargner. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu est persistant et cette grâce persistante de Dieu va même l'inciter à envoyer cette épreuve dans la vie de Jonas pour qu'il devienne un meilleur serviteur. Et c'est ce qui se passe. Dieu revient à Jonas et lui dit, « D'accord, tu as compris ta leçon, tu as compris maintenant, alors vas-y, je t'envoie à Ninive. » Et nous lisons dans Jonas 3, verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. » Lève-toi, va en Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Voilà la grâce persistante de Dieu. Dieu revient et donne à Jonas une seconde chance. Pourtant, Jonas a laissé tomber Dieu. Il a abandonné, il ne l'a pas écouté, il a déserté sa mission. Maintenant, est-ce qu'on prend un soldat déserteur qui a été traduit en cour martiale et on le met aux commandes de la bataille la plus décisive d'une guerre? Jamais on ferait ça. Jamais. On va prendre quelqu'un de fidèle, de loyal. Pas Jonas. Il a laissé tomber, il a déserté cette mission si importante à laquelle Dieu l'appelait. Mais Dieu, lui, le prend. Dieu le garde. Dieu lui donne cette seconde chance. Dieu va voir Jonas une seconde fois et il est comme un père envers Jonas. Il va voir son enfant désobéissant. Il a permis à Jonas de faire à sa tête et ensuite vivre les conséquences de sa désobéissance. Dieu a corrigé Jonas dans le but de le faire grandir afin de graver dans sa mémoire une leçon qui va porter du fruit. Dans un sens, Dieu a brisé l'esprit de rébellion de Jonas, afin qu'il ne soit plus jamais le même. Mais là, il agit à nouveau comme un père. C'est comme si Dieu venait à lui et lui disait, « Va à Nénive maintenant, Jonas. Fais ce que je te demande cette fois-ci. » Mais Dieu lui donne une seconde chance. Maintenant, Dieu n'est pas tenu de nous donner une seconde chance. C'est juste une grâce qu'il le fait. Il n'a pas toujours donné une seconde chance à tout le monde dans la Bible. Par exemple, on le voit avec le roi Saül, qui a désobéi à la parole de Dieu, et Dieu lui a enlevé la royauté. On voit Ananias et Saphira dans Acte 5 qui mentent, et Dieu, tout de suite là, les deux meurent sur le champ. Dieu n'est pas obligé de nous donner une seconde chance. Il ne faut pas prendre pour acquis les deuxièmes chances. Mais en même temps, Dieu est un Dieu de grâce. Il vient voir Jonas et lui donne cette deuxième chance, et troisième et quatrième comme nous, hein. Dieu pardonne Jonas, et ce qui est magnifique dans le pardon de Dieu, c'est que Dieu ne lui fait aucun reproche. On ne voit aucune critique. On ne voit aucune réprimande. Dieu ne lui rappelle pas ses fautes passées, ce qu'il vient de faire. Aucun reproche dans ses paroles. La grâce de Dieu offre une seconde chance à Jonas. Comme nous aussi, on reçoit une seconde chance. Une troisième chance. Sept fois sept chances. Souvent que Dieu nous donne. C'est un Dieu de grâce. La grâce persistante de Dieu a accordé une seconde chance à Abraham. Elle a accordé une seconde chance à Moïse. Elle a accordé une seconde chance à Pierre qui avait renié trois fois le Seigneur Jésus. Et Jésus revient le voir. Et il va se servir de Pierre pour qu'il devienne un outil puissant de ses mains, un serviteur qui aura un impact dans toute la ville de Jérusalem. Nous avons un Dieu de seconde chance, un Dieu prêt à nous pardonner quand on se repent comme Jonas. Mais cette grâce persistante de Dieu va permettre parfois des épreuves qui vont venir dans notre vie afin de nous aider à grandir. Et c'est une grâce aussi, ces épreuves. Et Jonas l'a très bien compris. Jonas n'a pas accusé Dieu d'avoir envoyé la tempête. Au contraire, il savait très bien que Dieu était en train de former son serviteur. Et parfois, on reste bloqué, on devient amer, on a la colère contre Dieu parce que des épreuves, Dieu permet des épreuves dans notre vie. Mais il faut réaliser comme Jonas, il faut accepter ces épreuves. Oui, dans la souffrance, dans la tristesse, mais en même temps, il faut se rappeler que si Dieu permet ces choses dans notre vie, c'est qu'à quelque part, il est en train de nous former et de nous faire grandir. Comme Jonas. Jonas a compris. Et il fut reconnaissant envers Dieu de lui avoir fait cette grâce, de subir cette épreuve, parce qu'en même temps, ça l'a sauvé, il l'a sauvé par ce grand poisson. Dieu veut nous former, nous travailler pour nous rendre plus efficaces pour son œuvre. Et parfois, ça prend des épreuves. Nous avons besoin de bien répondre à ces épreuves si nous voulons devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu. Voyez-vous, la grâce persistante de Dieu va nous aiguiser pour que l'on devienne plus efficace à son œuvre. On devient un instrument puissant les mains de Dieu également en répondant à l'appel que Dieu nous lance et nous donne. Dieu nous fait la grâce d'être à son service. Après l'épreuve, Dieu revient à Jonas et répète sa mission, répète son appel. C'est intéressant de voir que, dans le fond, Jonas, chapitre 1, verset 1, commence comme ceci. La parole de l'Éternel fut adressé à Jonas, « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Chapitre 1, verset 1. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te redonne. » Moi, je suis certain que Jonas aurait préféré passer par-dessus le chapitre 2. On s'entend. Mais parfois, c'est nécessaire, les chapitres 2 dans nos vies, pour nous faire grandir, pour nous rendre plus efficaces à son œuvre. Pourquoi Dieu revient à Jonas et l'envoie une seconde fois en mission? Bien, parce que nous avons une mission à accomplir, vous et moi. Jésus le dit à ses disciples. Jésus dit dans Jean, chapitre 20, ce qui suit, « Comme le Père m'envoyer, moi aussi je vous envoie. » Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples. On voit la même chose, la même idée dans Acte 1, où il est dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons une mission à accomplir, de faire des disciples. Alors, Dieu est un Dieu qui appelle et qui envoie. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui transforme et qui veut transformer le monde. Il a de la compassion pour des pécheurs. Il veut les changer, les sauver. Il veut les atteindre. Et c'est à travers nous qu'il veut faire ça. Dieu avait de la compassion pour Nénive. Alors, il envoie Jonas. Plus on connaît Dieu, plus on réalise à quel point il aime le monde et veut les restaurer, puis il veut les sauver. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, « Écoute, Abraham, je te fais une promesse, je vais te bénir. Mais je veux que tu saches aussi que si je te bénis, c'est parce que je veux que tu sois une bénédiction aux autres. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut que tu deviennes une bénédiction aux gens autour de toi, à ton travail, à ta famille et à tes voisins. » Dans ton réseau, dans ton milieu. Et si tu veux devenir une bénédiction pour les autres, comme Dieu te le demande, tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Jonas ne voulait pas se rendre là-bas. Jonas ne voulait pas se rendre à Nénive. C'était vraiment sortir de sa zone de confort. Dieu appelle Abraham. Là, les gars ont du fun, ont du plaisir avec les lumières en arrière. Je sais pas ce qui se passe, mais... Est-ce qu'on a payé l'électricité, Eric? Je pense que c'est Hydro là, qui veut nous avertir. Ouais, oh, ça me rappelle bien des années passées. Ouais, il y avait une grosse boule avec des miroirs, là. Ah, boy, OK, en tout cas. Si vous êtes capable de rester sérieux et vous concentrer malgré ça, on va continuer. Dieu nous appelle parfois à sortir de notre zone de confort. Il nous appelle à faire des choses qu'on n'a peut-être jamais faites avant. Il veut nous sortir de notre zone. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez peur de vous embarquer dans un ministère ou dans quelque chose parce que ça vous étire, ça vous sort de votre zone de confort. Mais si tu veux être une bénédiction pour les autres et toi-même être béni, tu as besoin de sortir, de répondre à l'appel que Dieu te donne et de sortir de ta zone de confort. Moi, je me rappelle il y a plusieurs années, M. Héron, qui était le pasteur de l'église de l'île de Jésus, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait l'église de Chamédée, pour ceux qui sont un peu plus vieux. Si vous avez mon âge, à peu de choses près. À cette époque, M. Héron était le pasteur de l'église. Et nous, on était jeunes, on était deux amis, Maurice Cloutier et moi-même. Puis M. Héron s'en vient voir Maurice Cloutier, puis lui demande à Maurice, « Écoute, Maurice, je voudrais que tu prêches dimanche. » Jeune, tu sais, on est là, on n'avait aucune formation, puis tout ça, puis le pasteur nous demande d'aller prêcher en avant de toute l'église. On n'avait jamais fait ça de notre vie. Alors, il a demandé à moi un autre dimanche, il a demandé à Maurice. Écoute, on était pliés en deux, on avait une crampe dans le ventre. Pauvre Maurice, je pense qu'il a eu de la diarrhée toute la semaine. Puis, il était à l'envers, je m'excuse, hein, c'est vrai que c'est pas très chic, mais malade, là, des crampes dans le ventre toute la semaine, et tranquillement, c'était dur pour Maurice. Chaque fois que M. Héron lui demandait d'aller prêcher le dimanche, il était malade toute la semaine. Alors, pour lui, là, c'était comme, mon ami, c'était vraiment sorti de sa zone de confort. C'est parlant d'avant, là, de tout le public, je pense que cette semaine, j'ai entendu, là, que la plus grande crainte que les gens ont, ça dépasse de toutes les peurs. Même, ça dépasse même la peur de les hauteurs et tout ça, c'est de parler en public. Et pauvre Maurice, c'était malade, là. C'était Dieu. Il dit, prie pour moi, Normand, ça n'a pas de bon sens, je suis malade. Moi, je suis pas fait pour ça, Normand. Puis là, M. Héron n'arrêtait pas de lui demander tout ça, parce que M. Héron avait vu quelque chose en lui que Maurice ne voyait même pas de lui-même. Et tranquillement, Maurice avait un don d'évangéliste, mon ami, je l'ai entendu prêcher un dimanche matin, là, puis des gens sont venus en avant se convertir, se sont donné leur vie au Seigneur. Mais il était malade toute la semaine. Il a sorti de sa zone de confort, puis il est devenu une bénédiction pour les autres. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, de sortir de notre zone de confort. Si on veut devenir des instruments puissants de ses mains, il faut répondre à son appel. Il faut dire oui. Et quand quelqu'un vient t'offrir un ministère, quelque chose, un service, dis oui. Et là, quand tu n'as pas trop la tête, ah, mais je ne sais pas si c'est mon don et tout ça. Quand tu n'as pas la tête, comment tu vas savoir si c'est ton don, si tu ne sers pas, si tu ne t'impliques pas? Vas-y, dis oui, pratique-toi, là, dis oui à ton voisin. Quand ton voisin dit oui, vas-y, oui. C'est pas trop dur, hein? Ça veut dire avoir la misère. Ça n'a pas des oui forts, hein? Oui? Ah, man, c'est pas moi de ça. C'est ça que le Seigneur veut entendre. C'est ça que le Seigneur veut voir. Des oui. Moi, je veux servir le Seigneur. Moi, je veux faire une différence dans ma ville. Oui, Seigneur, sers-toi de moi. Oui, je vais être obligé de sortir de ma zone de confort, mais si tu veux être une bénédiction pour les autres, tu as besoin de faire ça. Tu as besoin de sortir de ta zone. Et Dieu va faire des belles choses. Mon fils est en train de découvrir ça. C'est vraiment, moi, je suis comme vraiment béni de voir mon fils qui est en train de découvrir, des belles choses. Comment servir Dieu, c'est comme Dieu béni tout ça. Lui-même, il est étonné. Il me racontait, je pense que c'était avant-hier, il me racontait que dimanche, ils sont une gang, ils sont une vingtaine de son église, puis ils vont dimanche après-midi au métro. Ils mettent une table, donnent des bouteilles d'eau, puis c'est une pancarte. Puis c'est marqué gratuit. Alors, les gens qui sortent du métro de Longueuil arrivent, voient la table, puis ils viennent prendre une bouteille. Puis là, ils demandent, évidemment, la question fatidique, c'est « Mais pourquoi vous faites ça? » Et là, les gens peuvent partager l'Évangile. Eh bien, mon fils me racontait, il était tout excité au téléphone. Il dit « Papa, il ne sait pas ce qui s'est passé. » Il dit « Dimanche passé, là, il y a une personne qui sort du métro, se dirige directement à la table, regarde l'équipe en arrière de la table, en pleine face, demande même pas de bouteille, regarde, puis dit, bon, posez-moi vos questions, là. Alors, les gars sont en arrière de la table, il y a des gars et des filles qui sont là. Mais là, OK, là, ils ont commencé à partager l'Évangile, et vous savez quoi? À la fin, la personne a ouvert son cœur au Seigneur Jésus-Christ, et a donné sa vie à Jésus. Si tu sors de ta zone de confort, tu vas voir Dieu à l'œuvre, faire des choses qu'on ne verrait pas nécessairement. On verrait pas ces belles choses-là que Dieu veut accomplir à travers toi. Peut-être tu vas en entendre parler, mais Dieu veut se servir de toi. Il veut pas juste que tu sois le spectateur. Il veut que tu sois un des acteurs, que tu sois là, que tu sois vraiment là, un outil entre ses mains. Et on veut, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est de cette façon-là qu'on va donner un instrument puissant entre les mains de Dieu si on dit oui, Seigneur. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a pour moi, mais je vais dire oui. Je veux m'impliquer, je veux mouiller, Seigneur, je veux sortir de ma zone. Alors, c'est de cette façon qu'on va donner un instrument puissant entre les mains de Dieu, par sa grâce persistante qui va permettre parfois des épreuves pour nous aiguiser, nous former. On les accepte par la grâce de Dieu et on répond à son appel. Et troisièmement, en marchant par sa puissance. C'est vraiment Dieu qui va faire la différence. Jonas, chapitre 3, verset 4. Jonas rentre dans la ville, commence à parcourir la ville, alors qu'il n'a même pas couvert le tiers du territoire. Dieu avait déjà commencé à opérer des changements dans le cœur des gens. Et là, Jonas proclame, il prêche, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais dans certains pensent que c'est tout ce qu'il a dit, c'est promis dans la ville et c'est tout ce qu'il aurait dit. Je pense plutôt, comme d'autres, que c'est plutôt un sommaire à cause d'un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, alors que Jésus lui-même dira dans Luc 11, « Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. » Elle refusait Jésus comme Messie, elle commençait même à avoir des plans pour le détruire. Elle refusait Jésus comme Messie, comme roi d'Israël. Et là, elle demande un signe à Jésus. « Faisons un miracle pour qu'on croit. » Alors, comme la foule s'amarre, Jésus se mit à leur dire, « Cette génération est une génération mauvaise. » Elle réclame un signe miraculeux. Eh bien, Jésus leur dit, « Il ne leur sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. » Alors, un signe, Jonas fut un signe que celui de Jonas, le prophète. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Jonas a été un signe pour les gens de Ninive. Cette phrase suggère que Jonas a en fait raconté son expérience, et ça a tellement du bon sens. Il aurait raconté finalement son expérience dans le bateau, comment Dieu l'avait appelé, puis qu'il avait désobéi, puis que Dieu a envoyé une tempête qui allait menacer sa vie, et comment Dieu, par sa grâce, l'a réchappé pour le sauver afin de l'envoyer à Ninive. Pensez-y, commence à raconter ça aux gens de Ninive, de voir l'insistance de la grâce de Dieu qui tient à son prophète et qui va même envoyer une tempête, va même presque l'emmener à la mort pour l'envoyer, pour le préparer, pour qu'il s'en aille là-bas. Et moi, c'est ce que ça me dit que c'est un Dieu de grâce qui tenait à envoyer son prophète pour aller prêcher là-bas pour que ce peuple-là soit sauvé. Et je peux certainement comprendre le peuple de Ninive, comprendre à la lumière de l'expérience de Jonas qui raconte comment Dieu a agi avec grâce envers lui et s'est fait insistant d'envoyer son prophète pour leur transmettre ce message de salut, comment ça a touché leur cœur. Jonas a été un signe pour les gens de Ninive. Maintenant, certains diront que le message de Jonas ne montre pas beaucoup de grâce. Après tout, dans 40 jours, Ninive est détruite. Ça parle de jugement, mais plus on y pense, plus on réalise à quel point Dieu leur fait toute une grâce de leur envoyer un prophète qui vient de si loin pour les avertir, pour les sauver. Dieu veut les épargner de son jugement. Avertir les gens que le jugement approche est une évidence de la bonté de Dieu, car il ne veut pas qu'aucun périsse. Un jugement s'en vient, Dieu a dit. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est une grâce d'avertir les gens qu'un jugement s'en vient. Ça montre la grâce de Dieu qui veut les épargner. Et c'est là que la grâce de l'Évangile commence, en avertissant les gens que Dieu va juger le péché. Il va juger ceux et celles qui refusent de s'humilier devant lui dans la repentance. Martin Lloyd-Jones l'explique ainsi, il dit « L'essence de l'évangélisation est de commencer en prêchant la loi. Et c'est notamment parce que nous n'avons pas prêché la loi que nous avons tant d'évangélisation superficielle. Alors l'évangélisation doit commencer avec la sainteté de Dieu, le péché de l'homme, les demandes de la loi et les conséquences éternelles du mal. La personne qui sera amenée à voir sa culpabilité de cette façon-là sera la seule à courir vers le Christ pour implorer sa délivrance et son salut. Alors la grâce de Dieu à Ninive a commencé au moment où Jonas commence à les avertir du jugement à venir. Jonas lui-même présentait l'Évangile. Il était un sermon vivant de la grâce de Dieu. Et il a dû raconter cela aux gens de Ninive. Lui-même était un survivant grâce à Dieu, à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Jonas n'avait qu'à raconter son expérience et comment Dieu s'était fait tellement insistant auprès de lui pour qu'il aille les avertir que Ninive puisse voir la grâce de Dieu. Alors, que s'est-il passé? Ninive a connu un puissant réveil spirituel, une repentance nationale. Regardez la transformation de la ville. C'est une transformation puissante et elle est produite par une réelle repentance. Une vie transformée est une vie repentante. La repentance de Ninive montre que la vraie repentance, la repentance réelle, comprend vraiment trois réactions chez le pécheur. Premièrement, la vraie repentance produit une tristesse profonde. On voit dans Jonas 3, verset 5, les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. On faisait ça lorsqu'on était dans le deuil. On faisait ça lorsqu'on avait une tragédie dans sa vie. Et là, on se couvre d'un sac et on se place dans le cendre. Il y a une douleur qui est là. Ils ne sont pas dans la joie. Il y a une douleur, il y a une souffrance qui est due à réaliser comment ils ont offensé Dieu. Ça fait mal. Il y a une profonde tristesse d'avoir désobéi au Seigneur. La tristesse des gens de Ninive les incite à s'humilier. Il y a un sentiment de brisement, là. Même le roi s'assoit dans la poussière. Est-ce que tu voyais jamais un roi faire ça? C'était humiliant pour un roi de le faire. Mais c'est le produit de la repentance alors que ce roi va s'humilier devant Dieu. Et regardez jusqu'où va sa repentance. Verset 7 dit, « Il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. » Imaginez, le gouverneur ordonne un jeûne non seulement à tout le monde, mais même aux animaux. Il incite le jeûne même aux animaux. Et Dieu voit les cœurs. Il n'est pas nécessaire de se jeter dans la poussière. Dieu voit notre tristesse devant notre péché lorsque nous sommes brisés d'avoir offensé Dieu. C'est ça l'idée. La réelle repentance, c'est qu'il y a une douleur, il y a une tristesse d'avoir offensé, désobéi à Dieu. Alors, la vraie repentance produit d'abord une tristesse profonde et elle va aussi produire un changement de comportement. Ce n'est pas juste la tristesse. On veut se détourner du péché. Ce n'est pas juste le regret d'avoir péché. On veut changer. On veut arrêter de déplaire à Dieu. On lit au verset 8 que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, c'est le roi qui demande ça, et qu'ils renoncent à tout. Qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. D'abord, il se reconnaît pécheur, mais il dit, là, c'est assez, il faut que ça arrête. Et c'est ça la repentance. Va, il ne pêche plus. Il y a un arrêt, il y a un changement de comportement, il y a un demi-tour. Le roi reconnaît avoir fait le mal et il demande à tout le monde de cesser de faire le mal. C'est un appel à la sainteté. La vraie repentance produit une tristesse. Elle cesse le péché. Et on sait que nous allons retomber, on sait qu'on est faible, mais il y a une volonté, il y a un désir de marcher dans la victoire et être conquérant. Cette attitude de conquérant. Et on va retomber, on va pécher, mais on confesse à Dieu, on s'humilie devant Dieu, puis on continue, on se relève et on continue. La vraie repentance nous incite aussi à nous approcher de Dieu avec foi. Regardez verset 8. « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. » Le roi demande à tout le peuple de prier Dieu. Il demande de prier, de demander la grâce que Dieu agisse avec miséricorde. Les gens de Ninive ne connaissaient pas le Dieu de Jonas, mais ils ont réagi avec le peu qu'ils connaissaient. La repentance de Ninive est impressionnante, c'est un réveil national. Et comment une telle repentance, c'est possible? C'est vraiment par la foi. Le verset 5, les habitants de Ninive crurent à Dieu. La vraie repentance est toujours le premier fruit de croire en la parole de Dieu. Ninive s'est repentie. Les gens ont cru au message de Jonas, à la parole de Dieu. Ils ont cru aussi que Dieu pouvait agir avec grâce, qu'il y avait de l'espoir. Regardez ce que le roi dit au peuple au verset 9. Il dit, « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. » Il y avait de l'espoir, il y a de la foi, là. Il y a cet espoir, malgré l'avertissement et dans l'avertissement. La repentance telle que la parole de Dieu la présente est une repentance évangélique. Elle croit en l'Évangile. Il y a de l'espoir dans les paroles du roi. Pourquoi? Parce que Jonas a certainement raconté ce qui s'était produit avec lui et comment lui-même a fait l'objet de la grâce de Dieu dans la mer. Alors, les gens de Ninive ont vu l'espoir dans la menace. Et si Dieu donne cet avertissement, c'est qu'il leur offre aussi un moyen d'échapper à son jugement. Pourquoi envoyer un prophète à ce moment-là? Pourquoi ne pas simplement du ciel juger Ninive? Mais non, il envoie Jonas pour justement leur donner l'occasion de se repentir et se tourner vers Dieu. Jonas est un signe pour les gens de Ninive, comme le dit Jésus. Si la réapparition de Jonas du ventre du poisson a incité les gens de Ninive à trouver de l'espoir dans la repentance, combien, à plus forte raison, pouvons-nous avoir de l'espoir par la mort et la résurrection de Jésus-Christ? C'est un encouragement et un avertissement pour nous et pour notre société que nous avons besoin de placer notre foi en Jésus. Et c'est le point que Jésus fait justement dans Matthieu 12. Lorsqu'il dit dans Matthieu 12, Jésus dit, « En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Imaginez une société complètement changée du tout au tout, aussi violente qu'elle pouvait être, devient tout d'un coup sainte, se repent et se tourne vers Dieu par un message très simple, limité de Jonas. Combien à plus forte raison notre société et nous-mêmes avons besoin de vraiment proclamer la parole de Dieu parce que Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans. Il a été enterré sous terre. Il est réapparu du fond de la terre, ressuscité, affirmant donc que son sacrifice pour nos péchés fut accepté aux yeux de Dieu. Imaginez comment ce message, le message de l'Évangile, peut changer notre monde. Il a changé Nénive. Une seule personne, du nom de Jonas, est allée voir la ville de Nénive. Il a proclamé la parole de Dieu et la ville fut entièrement transformée. Une repentance extraordinaire dans une métropole la plus violente du monde ancien. Ça, c'est une œuvre surnaturelle de Dieu. Jonas va à Nénive. Et alors qu'il n'a couvert qu'une partie du territoire, Dieu a déjà commencé à faire son œuvre dans le cœur des habitants de Nénive. Il est très évident que les paroles de Jonas ont jailli comme des flèches directement à la conscience et au cœur des habitants de Nénive. C'est arrivé parce que le Saint-Esprit agissait avec puissance à travers la prédication de la parole de Dieu. Jonas est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu et qu'il est allé avec la puissance de Dieu. Imaginez, une seule personne a eu tant d'impact dans une ville entière, la plus violente du monde ancien. Pouvez-vous imaginer si vous et moi, ensemble, collectivement, on se tourne vers Dieu, on se repent de nos péchés, puis on dit « Oui, Seigneur, on répond à l'appel, allons proclamer le message de l'Évangile. » Pouvez-vous imaginer ce qui peut se passer dans notre ville, dans notre patelin et dans la province de Québec et dans notre pays, si on lève et on retrousse nos manches, puis on dit « Oui, Seigneur, je vais y aller. » Lorsque Dieu est à l'œuvre, nos familles sont transformées, la ville est transformée, car l'œuvre de Dieu touche toutes les couches de la société. J'ai justement été édifié l'autre jour en lisant cet article de Edwin Orr, c'est un spécialiste de l'histoire de l'Église, qui raconte comment lorsque Dieu touche une ville et fait un réveil spirituel, des gens de toutes les couches de la société se tournent vers Jésus. Dans son livre « The Second Evangelical Awakening », le second réveil évangélique, Orr décrit le réveil spirituel tout à fait extraordinaire qui a eu lieu en Irlande du Nord en 1859. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui était dans sa classe, dans une classe d'école, en pleine journée. Imaginez, un élève, un jeune élève qui est dans sa classe. Mais là, il y a un réveil qui est en train de frapper toute la ville. Il y a le Saint-Esprit qui visite cette ville et œuvre dans les cœurs des gens et des gens viennent au Seigneur, ça n'arrêtait pas par milliers. Et là, il y a ce jeune homme qui est dans sa classe, assis dans la classe, et il est évident qu'il est triste. Et le professeur l'a vu, il voit l'élève, il est triste, il est abattu, il va vraiment pas bien, il n'était plus capable de continuer ses études. Alors le prof le regarde et lui dit, écoute, je vois bien que ça va pas bien, veux-tu sortir un peu, prendre de l'air, veux-tu, je vais t'envoyer chez vous. Et donc le petit gars a accepté, il sort de la classe, commence à faire quelques pas, sort de la classe et se dirige tranquillement chez lui. Et le professeur a demandé à un élève de la classe qui était un chrétien, jeune élève, un chrétien qui connaissait Jésus-Christ comme son sauveur, le prof lui demande, écoute, peux-tu l'accompagner, qu'il ne soit pas seul, il n'allait vraiment pas bien. Alors le jeune homme s'en va avec rejoindre l'autre élève, ils font un bout de chemin, puis à un moment donné, il voit en marchant, alors qu'il se dirige vers la maison du jeune homme, en marchant, il voit une maison qui était vide, qui était ouverte, alors le chrétien dit, veux-tu qu'on arrête, puis qu'on aille prier ensemble? Alors, les deux, le jeune a dit oui, d'accord. Les deux sont rentrés dans cette maison qui était abandonnée. Ils ont commencé à prier. Le jeune homme lui présente l'Évangile. Le petit gars accepte Jésus-Christ dans son cœur, complètement changé, il retrouve la paix, sort de la maison en courant, tout content. Il dit, écoute, il n'y a pas besoin de revenir chez nous. Là, je suis heureux, je suis joyeux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je viens de découvrir une nouvelle paix. On parle d'un jeune homme, d'un jeune élève. Alors, le jeune élève, il dit, écoute, on n'a pas besoin de partir et revenir chez nous. Viens, on va retourner à l'école. Il faut que j'aille raconter ça au prof. Alors, les deux partent, puis retournent dans la classe, raconter ça au prof. puis il donne son témoignage dans la classe, comment il vient de donner sa vie à Jésus, son cœur a changé, que finalement il avait trouvé la paix. Alors là, il commence à avoir dans la classe un autre jeune homme, un autre élève, et d'autres élèves commencent à se lever. « Prof, il faudrait que je sorte, je me sens pas bien, tout ça. » Et les gens commencent, « Mais c'est pas tout à fait ce que vous pensez. » Et là, les jeunes ont commencé à sortir de la classe, se diriger dehors. Et là, ça sortait un après l'autre. Et là, le prof est là dans la classe, il se demande, « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Tu pouvais pas voir dehors parce que la fenêtre était trop haute. Alors, le prof, il dit, « Putain, qu'est-ce qui se passe? » Alors, il a pris une chaise ou quelque chose, un objet, monte sur la chaise, regarde par la fenêtre. Et là, il voit un paquet de jeunes éparpillés dans la cour d'école. Ils sont tous à genoux. Et ils sont en train de prier. Et là, le prof voit ça, puis il dit, écoute, il prend le jeune chrétien dans la classe, puis il dit, pourrais-tu aller dehors pour aller encourager les jeunes? Alors, le jeune s'en va dehors, commence à parler de Jésus aux autres élèves. Et là, il y a un mouvement qui commence. Les profs en entendent parler. Les professeurs sortent de l'école, vont rejoindre les jeunes. Le prof, il dit, écoute, il faut, ça prend un pasteur ici. Il appelle le pasteur, fait venir le pasteur à l'école qui prend le temps de visiter les gens. Les profs sont dehors, ils sont tous à genoux, ça commence à accepter le Seigneur. Les parents entendent parler qu'il y a quelque chose qui se passe à l'école. Il y a des parents qui se dirigent à l'école. Le pasteur a travaillé jusqu'à 11 heures du soir, parler de Jésus toute la journée et ça se convertissait un après l'autre dans la cour d'école. Parle-moi de ça, est-ce que j'entends des « Amen » ici? Ça, c'est la puissance de Dieu et c'est ça que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Il veut se servir de toi, que tu deviennes un instrument puissant pour transformer ta ville. C'est ça que Dieu veut. Regardez bien ce que E.M. Bounds a dit ceci. La puissance de l'Évangile. Il dit, Dieu fait de l'Évangile un calmant, un accusateur, un révélateur, un sondeur. L'auditeur devient un coupable ou un saint, car il le fait pleurer comme un enfant ou vivre comme un géant. Il ouvre son cœur et son portefeuille aussi, délicatement et aussi puissamment que le printemps déploie les feuilles. Cette onction n'est pas le don du génie. Elle n'est pas trouvée dans les écoles des autres études. Aucune éloquence ne peut lui être comparée. Aucune industrie ne peut la fabriquer. Aucune main de prélat ne peut la conférer. C'est le don de Dieu. Amen, frères et sœurs. Veux-tu être son instrument pour faire une différence dans ton milieu? Amen. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier que la grâce nous a d'abord été offerte à nous. Merci, Seigneur, qu'un jour tu as envoyé quelqu'un à 200 quelques kilomètres, qui habitait à 200 quelques kilomètres de chez nous pour me parler de la beauté de l'Évangile. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui envoie. Tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui agit avec grâce. Mais en même temps, nous réalisons l'urgence de l'heure. Nous comprenons, Seigneur, que tu viens bientôt. Et si la grâce est offerte aujourd'hui, un jour il y aura un jugement dernier pour ceux qui auront refusé l'Évangile. Il y a tant de gens autour de nous qui n'ont pas encore entendu parler du message du salut. Oh, je te prie, Seigneur, que tu nous envoies. Tu veux nous envoyer. Tu nous as préparés. C'est à nous d'y aller comme Jonas et faire une différence dans notre ville. Merci, Seigneur, de cette grâce de vouloir te servir de nous, malgré que nous sommes des pécheurs, comme Jonas, qui refusons, ici et là, d'obéir à ta parole. Mais tu reviens comme un bon père. Tu reviens comme un bon père. Tu dis, vas-tu obéir maintenant? Oh Seigneur, oui, nous voulons t'obéir. Nous voulons proclamer ce beau message d'Évangile et voir d'autres personnes se joindre à nous au ciel un jour et te rendre gloire pour l'éternité face à face avec Jésus. Oui, sers-toi de l'Église de Sentier pour transformer Gatineau et l'Outaouais. Sers-toi de nous, Seigneur, pour ta gloire.